Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer notre culte ce matin. Je vous demande de prendre place. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui ne sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils se retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Psaume 146. Amen. Est-ce que l'Éternel est votre Dieu? Est-ce que c'est lui qui vous délivre? Est-ce que c'est lui qui vous aime? Amen. Et c'est lui notre espoir, n'est-ce pas? Amen. Le grand Dieu, prions. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te louer, Seigneur, comme dit ta parole, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es celui qui nous secourt, qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait du bien, Seigneur, à la veuve, à l'orphelin, à tous ceux qui sont opprimés, les étrangers, Seigneur. Toi, tu nous accueilles, tu es ce Dieu qui nous accepte, qui nous aime. Et c'est toi que nous louons, Seigneur. Nous louons parce que tu es le Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu de toute grandeur, de toute splendeur, de toute beauté, de toute majesté. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te célébrer pour qui tu es, pour vraiment t'adorer pour qui tu es et te célébrer en disant merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu as été notre secours, éternel Dieu. Nous avons crié à toi et tu nous as délivrés. Tu es celui qui nous restaure, qui nous donne le repos suffisant, Seigneur. Alors nous te bénissons. Et ce matin, Seigneur, nous tous ensemble dans ta maison, nous voulons vraiment t'offrir un culte qui te soit agréable. À travers nos remerciements, à travers notre adoration, mais à travers aussi ta parole qui sera donnée avec excellence, Seigneur, en ce matin. Que tu puisses bénir chaque intervenant de ce culte. Que tu puisses aussi bénir chaque membre aussi de ce culte éternel Dieu. Chaque frère et sœur qui se tiennent debout dans cette église, et les amis visiteurs qui ne puissent pas ressortir comme ils sont venus, mais vraiment être enrichis par toi, éternel Dieu. Que ton Saint-Esprit puisse être à l'œuvre en ce matin. Nous nous attendons à toi, éternel. Nous voulons te prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout et nous allons pouvoir prendre ce chant qui célèbre notre liberté. Hein? Nous sommes libres, libérés de toute chaîne. Alors si vous avez des chaînes, faites le geste, je les libère aujourd'hui, ce matin. Je me libère, hein? Au nom de Jésus. Toutes chaînes sont brisées parce que Jésus les a déjà brisées. Amen. Libre de nos chaînes.
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne.
Effectivement, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, encore de régner en nous. Non parce que tu ne règnes pas dans ce monde et dans le ciel, mais nous voulons, Seigneur, que t'être complètement consacré, t'être vraiment fidèle, éternel Dieu. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses régner en nous, Seigneur. Parce que nous avons tellement besoin, Seigneur, d'être brisés par toi, d'être façonnés par toi, éternel Dieu. Toi qui sais reconstruire, Seigneur, les vies, éternel Dieu, les vies brisées. Toi qui sais nous restaurer, éternel Dieu. Et Seigneur, oui, souvent dans notre vie, Seigneur, nous, bien que tu sois là, Seigneur, tu ne règnes pas forcément en nous parce que nous n'avons pas donné la place qui t'est due. Et c'est ce matin, nous voulons encore, Seigneur, toi, le Dieu très grand, nous voulons te dire, Seigneur, de prendre la place qui te revient, Seigneur, dans nos cœurs, éternel Dieu. Alors continue, Seigneur, de faire éclater ta gloire. Continue, Seigneur, de nous appeler, de tendre les bras, Seigneur, vers nous, éternel Dieu. Et si tu continues à le faire, c'est parce que tu sais que nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Alors vraiment, Seigneur, entends le cri de ton peuple, éternel Dieu, qui t'appelle, viens, éternel. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh Seigneur, tu règnes.
Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne, il a montré sa puissance.
Acclamer l'Éternel. Alléluia. Celui qui a le nom le plus excellent, ce nom qui sait nous conduire, qui sait nous guérir, ce nom qui nous a sauvés. Et nous voulons encore bénir le nom du Seigneur. Il lui dit encore, Seigneur, nous voulons encore être en toi. Nous voulons encore demeurer dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel. Amen.
Je chanterai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour, je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom.
Ses bienfaits, pour ses hauts faits. Amen. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Car c'est lui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'elle renferme. Merci Seigneur encore d'être notre secours. Merci encore Seigneur de tout ce que tu fais dans la vie de chacun, Seigneur. Et nous ne connaissons pas nos épreuves mutuelles, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Et tu nous as prouvé, Seigneur, dans le passé, et tu nous le prouves encore aujourd'hui, et nous savons que demain encore, Seigneur, puisque tu es le Dieu fidèle, tu seras toujours avec nous, éternel Dieu, toujours prêt à nous secourir. Alors c'est pour cela, Seigneur, que nous voulons placer notre secours en toi, éternel Dieu. Car ton nom, Seigneur, est Emmanuel. Ton nom est un rocher, un abri sûr. Et c'est ton nom, Seigneur, que nous voulons encore adorer. Ton nom Emmanuel.
Ton nom,
grand prix.
Ton nom,
comme une brise légère.
Ton nom,
ton nom, ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom,
roi des prix de la ville.
Ton nom,
comme du miel sur mes lèvres.
Ton nom, ton nom, Emmanuel.
Ton nom,
comme un parfum de grand prix. Légère.
Ton nom,
ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc, fidèle, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, solide comme le roc, fidèle, beau, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, solide comme le roc, fidèle, beau, beau comme le plus comme un parfum de grand prix,
ton nom,
comme une brise légère,
ton nom, Emmanuel.
J'aime chanter ton nom, Seigneur, ton nom, ton nom,
comme du miel sur mes lèvres,
ton nom, ton nom, ton nom,
voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi.
Soit fait de ta présence.
Seigneur. C'est vrai que parfois nous ressentons cette frustration de ne pas avoir toujours les bons mots pour lui exprimer notre amour. Mais le Seigneur est celui aussi qui nous sonde et qui nous connaît entièrement. Et il connaît tous les mots de nos cœurs, tout ce que nous aimerions lui dire, l'expression de notre adoration. Alors peut-être que nous n'avons pas forcément les mots, Seigneur, pour te dire, Seigneur, vraiment verbalement, Seigneur, comment nous te sommes reconnaissants, combien nous t'adorons, Seigneur. Mais entends, Seigneur, chaque battement de nos cœurs, éternel Dieu. Entends chaque battement de nos cœurs. Aussi chacun de nos soupirs, Seigneur. Chacune de nos pensées, Seigneur. Entends-les, Seigneur Dieu. Et agrée-les, Seigneur, et sont pour toi, éternel Dieu. En tout cas, Seigneur, merci pour le Dieu tel que tu es, éternel Dieu. Merci, nous t'adorons parce que tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu sauveur. Et lorsque nous disons sauveur, Seigneur, nous savons à quel point tu nous as sauvés, à quel point tu nous as tirés de ce péché, Seigneur, qui nous environnait. Combien tu nous as attirés vers toi, éternel Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons encore t'adorer. T'adorer, Seigneur. Nous ne sommes bons qu'à t'adorer, éternel Dieu. Oui, Seigneur, entends encore nos cœurs, entends nos cœurs. Entends nos cœurs, entends nos battements.
Éternité.
je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Nous voulons bénir le Seigneur qui nous fait grâce d'avoir avec nous le pasteur Blaise de l'église de Pouinois avec son épouse et leur petite fille, voilà, que nous connaissons déjà. Voilà, ils sont de l'église de Pouinois. Voilà. C'est avec joie que nous les accueillons et que le Seigneur te bénisse pour sa parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je me suis permis de venir avec ma bouteille d'eau puisque, comme vous entendez, ma voix paye les conséquences de la saison actuelle. J'ai résisté vaillamment pendant plus d'un mois. Mais voilà. Maintenant, je suis aussi un peu touché. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec vous et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Comme disait Émile, avec mon épouse Chantal et notre fille Zoé. J'aimerais, avant de commencer cette prédication, vous donner les fraternelles salutations de l'Église. Je leur ai demandé si je pouvais le faire, puisque ça aurait été un peu étrange de vous saluer de leur part sans qu'ils aient été d'accord. Mais vous avez les salutations de toute notre assemblée, et je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin. J'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble notre Bible ce matin dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18. Si vous n'avez pas votre Bible aujourd'hui, eh bien le texte va être projeté. Mais j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce matin dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Luc chapitre 18, les versets 1 à 8. Je lirai dans la traduction de la Semeur. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mes adversaires. » Mon adversaire, pardon. Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire, « J'ai beau ne pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Cette veuve m'ennuie. Et je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Aujourd'hui, on dirait peut-être pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser les pieds. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre. Voici pour notre lecture de ce matin. Et avant de commencer cette prédication, j'aimerais juste prier courtement. Notre Dieu, notre Père, je veux te remercier pour ta parole que tu nous as donnée, sur laquelle tu as veillé, cette parole que nous pouvons avoir aujourd'hui, que nous pouvons lire constamment. Et je veux te remercier, Père éternel, de ce que ce matin encore tu veux nous instruire, tu veux nous encourager, peut-être que tu veux aussi nous reprendre. Mais je veux vraiment te dire merci, parce que nous avons ce privilège que tu nous parles au travers de ta parole. Veuille faire de moi un serviteur qui reste fidèle à ce que tu as voulu dire par cette parabole, et veuille bénir mes sœurs et mes frères qui m'écouteront ce matin, que tu puisses vraiment les encourager et leur faire du bien au travers de ta parole. Amen. Est-ce que, et je ne vous demande pas forcément de répondre, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre dans votre cœur, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être victime d'injustice? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous vous dites « Mais ça, ça n'est pas normal. Ça, ça n'est pas juste. Ça, je n'ai rien mérité pour que ce soit comme ça aujourd'hui. » Je crois qu'à plus ou moins grande échelle, il arrive à chacun d'entre nous, à un moment dans notre vie, de ressentir une certaine injustice. Alors, nous devons être attentifs parce que parfois nous sommes assez prompts à crier à l'injustice quand ça nous concerne, alors que parfois peut-être que l'injustice n'est pas aussi grande que nous le soupçonnons. Mais sans doute avons-nous déjà vécu des injustices dans notre vie. Et vivre l'injustice nous procure une sensation de souffrance, une sensation, bien entendu, que la situation que nous vivons n'est pas juste. Parfois nous avons un peu des fois peut-être aussi la sensation que Dieu nous a peut-être abandonnés, que peut-être Dieu nous a laissé tomber. Parfois nous nous disons, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? puisque si je suis dans cette situation, c'est bien que j'ai dû faire quelque chose pour y être. Eh bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions nous concentrer sur trois caractéristiques de Dieu qui sont présentées ici par Jésus dans cette parabole. Et j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur cela pour que nous puissions grandir dans notre confiance en Dieu. Pour que lorsque nous sommes dans des situations d'injustice, nous puissions vivre ces situations comme Dieu le veut. Nous allons voir ensemble ce matin que Dieu est un juge qui est juste. Nous verrons aussi que Dieu répond à ceux qui demandent justice. Et pour finir, nous verrons que Dieu ne tarde pas dans la manière dont il répond à ceux qui lui demandent justice. Dieu est un juge qui est juste. Notre société nous présente souvent, si vous écoutez parfois les informations ou autres, des décisions de justice sur telle ou telle situation, et parfois nous avons envie de nous dire, mais enfin, qui a mis cet homme responsable de prendre une telle décision et comment peut-il en son âme et conscience prendre une décision qui nous paraît aux antipodes de la situation qui nous est proposée. Et parfois nous nous disons, la justice, eh bien elle ne vaut vraiment plus rien, elle est vraiment gangrénée. On ne peut vraiment plus faire confiance à personne. Mais nous pouvons faire confiance à une personne. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Parce que Dieu est un juge qui est juste. Comme vous le savez, une parabole, et c'est le texte que nous avons lu ce matin, eh bien une parabole, c'est une courte histoire qui présente des personnages et des situations qui sont destinées à nous enseigner des vérités, soit sur Dieu, soit sur la vie chrétienne et parfois sur les deux en même temps. La parabole qui est rapportée ici, cette courte histoire que Luc a consignée pour nous, elle a pour but, comme le dit le premier verset, d'encourager à la prière constante, c'est-à-dire la prière sans se lasser, la prière sans se laisser décourager par les situations ou l'absence de réponse de Dieu au moment où nous prions. Et pour nous encourager dans cela, eh bien Jésus va raconter l'histoire d'une femme qui demande justice auprès d'un juge. Et c'est tout à fait normal de demander justice à un juge, puisque le rôle du juge, c'est de faire justice. Cette femme a une démarche qui est une démarche normale. Et nous pouvons voir que ce juge, eh bien, si je peux me permettre cette familiarité, il n'en a rien à faire de cette femme. Cette histoire lui importe peu. Ça n'est pas son problème que justice soit faite dans la vie de cette femme. Ça n'est pas son problème. Il ne s'intéresse pas aux gens et en plus, il ne respecte pas Dieu. Il ne s'intéresse pas à Dieu, il n'adore pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il n'y a donc dans cette vie rien qui l'intéresse visiblement que lui-même. Il n'a pas d'égard pour Dieu et il n'a pas d'égard pour les gens. Et cette femme va lui demander que justice soit faite vis-à-vis de son adversaire. Et elle va lui demander, on a l'impression, quasiment tous les jours, elle va aller le voir pour lui dire, fais-moi justice. Fais-moi justice dans cette situation qui est injuste. Donne-moi raison face à mon adversaire. Et si elle demande raison, c'est parce qu'elle est dans son droit. Si elle n'était pas dans son droit, l'histoire le dirait. Et elle va donc demander régulièrement à ce juge, fais-moi justice. Fais ton travail, puisque ton travail, c'est d'accomplir la justice. Et l'histoire nous raconte, Jésus nous dit, qu'un jour, ce juge, qui n'est pas juste, va donner gain de cause à cette femme. Mais pourquoi est-ce qu'il lui donne gain de cause? Est-ce que c'est parce qu'il a envie que la justice soit rétablie? Pourquoi est-ce qu'il donne gain de cause à cette femme? Pardon? Parce qu'elle l'importune, et du coup, pourquoi est-ce qu'il finit par dire oui? Il aurait pu se laisser importuner toute sa vie, cet homme. Pourquoi est-ce qu'il dit, ok, je vais m'occuper de ton cas maintenant? Parce qu'il veut être tranquille, effectivement. Il dit, j'en ai marre de cette femme qui vient tous les jours me casser les pieds avec son histoire. Du coup, je vais lui donner raison, et comme ça, elle va me laisser tranquille, et ce sera bien pour moi. Il va donner gain de cause à cette femme. Parce qu'il veut la paix pour lui-même. pas parce qu'il cherche spécialement à ce que justice soit faite ou que cette femme ait gain de cause, mais parce qu'il en a tellement marre que cette femme vienne le voir tous les jours qu'il dit « j'en ai par-dessus la tête, du coup, je vais lui donner gain de cause ». Il m'est arrivé parfois d'entendre des frères et des sœurs expliquer la parabole de la manière suivante, en disant que nous aussi, finalement, eh bien, on doit embêter Dieu avec nos prières. Comme cette femme, elle a embêté ce juge mauvais. Il faut tous les jours demander à Dieu les choses qu'on veut voir, et il finira par craquer et par nous donner ce qu'on veut. Je vous avoue que je suis un peu gêné par cette interprétation de la parabole, et je ne crois pas qu'elle soit juste. Je ne pense pas que Dieu veuille être comparé à ce mauvais juge, à un juge qui ne respecte pas Dieu et qui n'aime pas les gens. Je ne crois pas que Dieu veuille cela. Mais parfois, c'est vrai, on s'imagine que, à force de prière, Dieu va finir par capituler et par répondre à notre demande. Nous avons parfois l'impression que si nous agissons comme cette femme a agi envers le juge, et bien si nous agissons comme elle envers Dieu, Dieu va finir à un moment par dire « j'en ai par-dessus la tête et je vais lui dire oui ». Parfois j'ai entendu cette explication. Et avant que je me plonge moi-même dans ce texte, eh bien je pensais que c'était vrai, qu'il fallait vraiment, entre guillemets, harceler Dieu pour que Dieu finisse par dire oui. Sauf que Dieu a beaucoup plus de patience que moi. Et sans doute que moi, je me serais épuisé avant que lui soit épuisé. Et puis, de toute façon, il aurait pu me faire fermer la bouche. Voilà, s'il le voulait. Mais je ne pense pas, du coup, que cette manière de voir la parabole soit vraiment juste. Cette parabole, elle n'a pas pour but de présenter Dieu comme un mauvais juge à qui il faudrait soutirer par la force et la persévérance une réponse à notre prière. Si cette parabole, elle compare le juge et Dieu, c'est pas pour mettre en avant des similitudes entre ces deux personnages, mais c'est bien au contraire pour montrer combien Dieu est différent de ce mauvais juge. On a d'un côté ce qui se fait de mieux en matière de justice, c'est-à-dire Dieu, et de l'autre côté ce qui se fait de pire en matière de justice, c'est-à-dire ce mauvais juge. Et on va regarder un petit peu ensemble maintenant qu'est-ce qui caractérise le juge et qu'est-ce qui caractérise Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Dieu est un juste qui est juste? Alors le juge, il nous est dit qu'il ne craint pas Dieu. Dieu, lui, ne se craint pas lui-même non plus, c'est sûr. Mais Dieu est Dieu. Dieu a égard pour qui il est. Et il œuvre pour sa propre gloire. À un moment dans le livre d'Ézéchiel, Dieu va dire à son peuple, « Eh bien moi, je vais agir envers toi, mais je ne vais pas le faire à cause de toi. Je vais le faire pour l'honneur de mon nom. Je vais le faire pour moi-même. » Donc on voit que Dieu agit d'une manière qui est conséquente par rapport à qui il est. Si le juge avait eu un peu quelque chose de conséquent en lui, il se serait dit au moins par égard pour Dieu ou au moins pour me garder d'un jugement négatif de Dieu sur moi, bah je vais faire quelque chose pour cette femme. Mais on voit que même ça, ça lui fait absolument rien à cet homme. Peu lui importe que Dieu soit Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, il agit d'une manière qui est conforme à qui il est, pour sa gloire, pour que son nom ne soit pas bafoué. Le juge ne tient compte de personne. Le texte nous dit que Dieu défend le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit. Le juge se fiche pas mal des personnes qui viennent demander justice. Ça n'est pas son souci d'aider les gens. Ça n'est même pas son souci de faire correctement son travail. On pourrait se dire, bon, qu'il aime personne, ma foi, c'est son droit, hein, finalement. S'il a envie d'aimer personne et d'être aigri, c'est son problème. Mais au moins qu'il fasse son travail correctement. Mais même ça, ça ne lui importe peu. Alors que Dieu, lui, eh bien, il fait attention à ceux qu'il aime. Il fait attention à ses enfants. Il fait attention à ceux que Jésus qualifie comme ceux qu'il a choisis. Il fait attention à ceux qui crient à lui jour et nuit. Il fait, entre guillemets, bien son travail de Dieu. Il veille, comme le Dieu qu'il dit être, sur ceux qu'il aime. Le juge va refuser longtemps d'aider la veuve. Très longtemps. Et pour qu'il se mette à lui répondre, on l'a vu, c'est parce qu'il voulait avoir la paix. C'était pas pour elle. Tandis que cette parabole nous dit que Dieu, il défend ceux qui en ont besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que là où la veuve doit attendre longtemps, la parabole nous dit que lui, Dieu, ne tarde pas. On y reviendra un peu après parce que des fois on a l'impression quand même que Dieu prend bien son temps. Mais nous y reviendrons. Et pour finir, on voit que le juge, il répond aux demandes de la veuve pour son propre intérêt, tandis que Dieu, lui, n'agit pas spécialement dans son intérêt. Dieu agit parce qu'il a de l'amour pour nous. Quand Dieu nous répond, c'est parce que Dieu nous aime. Il nous a choisis, il a décidé de nous sauver et il ne compte pas nous abandonner sur la route du salut. Dieu ne nous abandonne pas une fois qu'on est chrétien, il ne dit pas « bon, c'est bon, maintenant t'es sauvé ». Maintenant, ben, tiens bon jusqu'à la fin, et puis voilà, ça ira bien. Dieu nous accompagne. Dieu fait attention à nous. Dieu ne répond pas pour son propre intérêt particulièrement, mais il répond pour nous, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire du bien. Donc on se rend bien compte que de dire que cette parabole a pour but de comparer Dieu et le juge, ça n'a pas vraiment de sens. Et si comparaison il y a, c'est pour montrer toute la différence qu'il y a entre ce juge et Dieu. Dieu n'est pas un mauvais juge. Et je dirais que une bonne vision de Dieu doit nous aider à avoir une vision réaliste de la prière aussi. Et une vision réaliste aussi de la relation qu'on entretient avec Dieu quand on prie. On n'a pas besoin de harceler Dieu pour recevoir de lui une réponse. On n'a pas besoin de lui, entre guillemets, casser les pieds ou casser la tête, pour reprendre les termes de la parabole, pour que Dieu nous réponde. Mais par contre, nous devons être prêts à attendre le moment où Dieu nous répondra. Prier, ça n'est pas entrer dans une lutte avec Dieu. Quand on prie, on ne vient pas faire un bras de fer avec Dieu, en espérant que cette fois-ci, Dieu sera moins fort que nous. Et si jamais nous prions comme ça, ben c'est très triste, parce que Dieu sera toujours plus fort que nous. On ne vient pas faire un bras de fer avec Dieu pour le faire se plier à notre volonté. Contrairement à l'attitude de la veuve avec le mauvais juge. Elle venait tous les jours pour que finalement, il finisse par fléchir et qu'il lui donne ce qu'elle avait le droit de recevoir. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. On ne vient pas devant Dieu pour dire « Écoute, aujourd'hui, je viens encore une fois dans l'espoir que je vais pouvoir t'obliger à faire ce que je veux. » Et c'est triste si jamais nous prions comme ça. Parce que ça n'est pas le genre de prière et de relation que Dieu veut avec nous. Prier, c'est une discussion, c'est avoir une discussion apaisée entre Dieu et nous. On a le droit d'avoir des choses lourdes sur notre cœur. On a le droit de dire à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce que tu fais. Ou même, je ne comprends pas ce que tu ne fais pas. Quand je lis les psaumes, je suis rassuré sur le fait que j'ai le droit de dire à Dieu ce qui me blesse, ce qui me gêne, ce que je ne comprends pas. Parce que le psalmiste a toujours dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Et des fois, il a dit des choses un peu que même nous, on n'oserait pas dire. Hein. Alors après, les psaumes, il faut aussi les lire dans la perspective de leur utilité dans la parole et le fait que c'est aussi sous l'alliance des œuvres, sous l'ancienne alliance, que les psaumes ont été écrits. Mais nous voyons que le psalmiste a la liberté d'ouvrir son cœur à Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire semblant que tout va bien quand ça ne va pas bien. Si ça ne va pas bien, on a le droit de dire à Dieu, ça ne va pas bien. Ce n'est pas un problème. Mais on ne vient pas lui dire ça pour lui dire, du coup, tu dois faire ça maintenant. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. On vient vers un Dieu qui nous aime. On vient vers un Dieu qui nous a rachetés en Jésus-Christ. On ne vient pas vers un mauvais juge qui n'en a rien à faire de nous, et des autres aussi. On vient vers un Dieu qui nous aime, qui veut notre bien et qui veut défendre notre droit. Vers un Dieu qui veut nous faire justice. Et un Dieu qui ne va pas nous abandonner dans notre quête de justice. Lorsque Dieu répond, il le fait pour que nous, nous ayons la paix. Pas pour que lui ait la paix, mais lorsque Dieu nous répond, il le fait pour que nous, on soit en paix. Dans les situations qu'on traverse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Bruce Tout-Puissant. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce film, mais je trouve qu'il est intéressant sous certains aspects, notamment quant à la vision qu'on a de Dieu. Et c'est intéressant parce que cet homme, Bruce, il se plaint que Dieu ne fait pas bien les choses, que Dieu, finalement, il ne sait pas comment gérer le monde. Et du coup, Dieu va lui dire, alors c'est quelque chose qui bien sûr n'arrivera jamais dans la réalité, mais Dieu va lui dire, ben, puisque tu penses que toi tu peux faire mieux, je te donne toute ma puissance pendant je crois une semaine, et toi, tu vas être le nouveau Dieu. Moi, je pars en vacances. Je vais me reposer. Et toi, tu vas être finalement le nouveau Dieu. Je te laisse tout faire, tout gérer. Alors au début, il s'amuse. Hein. Il fait des trucs, il fait sauter en l'air une bouche d'incendie, etc. Il fait plein de trucs ridicules qui ne servent à rien et que Dieu ne ferait jamais. Et puis un matin, il se réveille, il allume son ordinateur et puis il va voir ses mails, parce qu'il reçoit ses prières par mail. Puis il répond à une première prière, il l'actualise et là, il voit sa liste d'emails non lus qui explose. Et comme il est dépassé, il fait « Bon, ben, répondre à tout ». Il dit « Répondre à tous » et à tous, il met « Oui ». Et il répond oui à tout le monde. Et dans la scène suivante, on voit une dame qui mange une pâtisserie et une amie à elle qui lui dit « C'est fou ça, hein, tu manges toujours des pâtisseries, pourtant t'as maigri. Hein. » On voit bien ce qu'elle demandait dans ses prières. Elle demandait à pouvoir manger sans grossir et Bruce ayant dit « Oui, ça a marché. » Dieu ne fait pas ça comme ça. Dieu, il n'agit pas en disant oui à tout. Dieu ne s'assied pas, entre guillemets, devant son ordinateur en disant « Aujourd'hui, je dis oui, envoyé à tous. » Dieu ne fait pas ça comme ça. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu prend le temps de s'occuper de nous et de nos situations. Dieu prend le temps de lire notre email, si je peux me permettre. Et puis des fois, il met dans les mails à répondre plus tard. Et puis des fois, il met peut-être à la corbeille, parce que ce qu'on a demandé, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de bon. Mais il ne traite pas notre prière, voilà, comme un pauvre mail qui passe. Lui, il veut vraiment que nous, on soit dans la paix quand il nous répond. Et il répond notamment à ceux qui lui demandent justice. C'est vraiment le cœur de cette parabole. Cette femme veut que le juge lui fasse justice. Dieu répond à ceux qui ont besoin de la justice dans leur vie. Cette veuve ici, elle veut obtenir justice. Elle veut que son droit soit rétabli. Elle dit « J'ai le droit à ça. Alors, mets-toi en action, mets-toi en œuvre pour que je reçoive ce à quoi j'ai droit. » Elle veut que l'injustice dont elle est victime, elle soit punie. Et c'est normal, quand il y a quelque chose d'injuste, de vouloir que ça soit puni. Et la loi de Dieu, elle avait pour but de punir le méchant et de protéger celui qui agissait selon la loi et la volonté de Dieu. La loi, elle n'est pas contraignante si on fait ce que Dieu veut. La loi, elle nous gêne quand on fait le contraire. C'est gênant qu'il y ait une limitation à 50 en ville si on a envie de rouler à 100. Mais si on est prêt à rouler à 50, ça ne nous dérange pas. Et la loi était là pour ça. La loi était là pour que ceux qui étaient en position de faiblesse puissent être protégés et que ceux qui étaient victimes d'injustice puissent recevoir la justice. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu juste. C'est-à-dire qu'il est juste dans toutes ses actions et dans tous ses jugements. Et qu'il est toujours juste. Quand Dieu fait preuve d'amour, il est encore juste. Quand Dieu punit le péché, il est encore juste. Dieu est toujours tout à la fois. Dieu n'est pas des fois juste, et puis des fois il prend la casquette de celui qui va punir, et puis des fois il va prendre la casquette de celui qui aime. Si vous voulez... Dieu a toutes ses casquettes empilées sur la tête en même temps. Et il n'en enlève jamais une quand il fait quelque chose. Dieu est juste. Et comme Dieu est juste, on peut s'approcher de ce Dieu juste et lui demander qu'il nous fasse justice. Parce que c'est dans son caractère, c'est dans ce qu'il est de vouloir faire justice. Le juge de la parabole, il ne répond pas à la veuve parce qu'il a considéré que sa situation, elle était injuste. Il ne s'est pas dit « sa situation, elle est révoltante, je vais agir pour elle ». Pas du tout. Cette veuve, elle a l'air d'être dans son bon droit. Quand elle réclame justice, il semble que ce soit juste, que ce soit pas abusif. Mais c'est pas pour ça que le juge lui donne raison. Il lui donne raison parce que c'est dans son intérêt à lui, parce qu'il en peut plus qu'elle vienne tous les jours. Ça lui casse trop la tête. Il en peut plus. Donc, il lui donne raison. Mais c'est pas pour un souci de justice. Ça n'est pas pour un souci de justice. Longtemps, il a refusé de répondre à la veuve. Parce qu'il a d'égard pour personne et qu'il ne craint pas Dieu, du coup, peu lui importe de faire ce qui est injuste. Il n'a jamais répondu avant parce qu'il n'en avait juste rien à faire. Et parfois, malheureusement, c'est vrai, nous rencontrons dans notre monde des gens qui n'en ont rien à faire. et qui ne pensent qu'à eux et à leur propre gain. Et Dieu est l'exact opposé de ce juge. Il rend justice à qui mérite justice. Il punit qui doit être puni. Et il bénit qui il veut bénir. Dieu est juste. Dieu est juste. Je me rappelle que quand j'ai fait l'Institut biblique, j'avais un prof en particulier que je trouvais parfois un peu dur. Je ne citerai pas de nom, parce que ce n'est pas nécessaire. Je le trouvais parfois dur, mais par contre, je savais qu'il traitait tout le monde de la même manière. Il était juste dans sa manière de nous traiter. Il attendait de nous un niveau élevé, mais il était juste. Et du coup, je n'étais pas gêné du fait qu'il attendait de nous des choses élevées, parce que je savais qu'il allait traiter tout le monde pareil, et qu'il se traitait lui-même de la manière dont il nous traitait. Il était juste. Et du coup, eh bien de la même manière, nous savons que Dieu est juste et que Dieu il agit toujours de la même manière. Ce n'est pas un Dieu à deux vitesses. Même si des fois on a l'impression que ah ben lui, un tel, il reçoit toujours ce que Dieu lui demande et moi je ne reçois jamais rien. Ou alors lui là qui est tellement méchant, tout réussit. Il a un travail, il est marié, moi je fais confiance à Dieu, ben il ne se passe rien pour moi. Ben, dans ces moments-là, rappelez-vous que Dieu n'est pas un Dieu à deux vitesses. Dieu n'est pas injuste. À un moment est juste avec d'autres. Et surtout, Dieu n'est jamais juste envers les méchants et injuste envers nous. Mais Dieu a ses temps et ses moments. Et nous savons que la chute des injustes arrivera un jour. Mais nous pouvons aller vers Dieu et savoir que Dieu répond à ceux qui demandent justice. Il rend justice à qui mérite justice parce que Dieu aime la justice. Dieu aime la justice. Il a un profond amour pour ce qui est juste, parce que ce qui est juste est inscrit dans son caractère. Ce qui est juste est inscrit dans son caractère. Il aime la justice et il n'abandonne pas celui qui a besoin que Dieu lui fasse justice. Et il nous aime, nous. Il nous aime, nous. Il vous aime, vous, chacun, individuellement. Pas juste vous, l'église de Créteil, mais vous, chacun, individuellement, il vous aime. Et si vous avez besoin que Dieu fasse justice dans une situation, vous pouvez vous approcher de lui et le lui demander. Parce qu'il le fera pour vous, mais aussi par égard pour lui. Actuellement, j'ai un couple d'amis qui passent un temps difficile avec leurs enfants. Ils sont dans une situation qui est injuste, et elle est objectivement injuste. C'est pas juste de leur point de vue, c'est injuste. C'est injuste. Parce qu'ils sont calomniés par d'autres personnes sur des choses qui sont fausses. Ce n'est pas des personnes chrétiennes. Et c'est bien parce que ça me donne aussi une occasion d'être présent pour mon ami qui a besoin d'une oreille attentive et de quelqu'un qui peut l'encourager. Ma prière, elle consiste à demander pour eux à Dieu de les accompagner, de leur donner la paix et la joie malgré les épreuves et même s'ils ne le connaissent pas. Parce que Dieu peut agir pour eux même s'ils ne reconnaissent pas que ça vient de Dieu. Moi, je le sais, ça me suffit. Et Dieu le sait, c'est pour sa gloire, et c'est ça qui est important. Mais je demande aussi que Dieu y fasse justice pour eux, parce que je sais que Dieu est un Dieu qui aime la justice. Et je sais que quand quelqu'un est dans une situation d'injustice, Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas d'accord. Et je demande que Dieu fasse justice. Et parfois, peut-être que ça vous est arrivé, mais parfois on se sent un peu gêné de demander à Dieu de faire justice. Parce que demander à Dieu de faire justice, ben, d'une certaine manière, c'est demander à Dieu de taper sur la tête de quelqu'un à côté. Et on se dit, mais je ne peux pas demander ça. Mais Dieu aime la justice. Dieu fait justice. Excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau. Mais Dieu fait justice. Et il fait justice de la manière dont il veut faire justice. Alors on n'a pas à être gêné de demander à Dieu qu'il fasse justice. On a le droit. Dieu est juste et il ne tolère pas l'injustice. C'est même pas juste qu'il n'aime pas l'injustice. C'est que tout acte d'injustice est intolérable aux yeux de Dieu. Alors là, on pourrait être pris par la pensée de dire, ben si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il se passe tout ce qui se passe? Ça, c'est à cause de l'homme qui est touché par le péché, qui est gangréné par le péché au plus profond de son être. Mais un jour, Dieu fera justice de toutes ces choses-là. Il fera justice de toutes ces choses-là. Il jugera tous ceux qui ont péché de la rébellion de Satan et de ses anges jusqu'au dernier péché qui aura été commis avant le retour du Seigneur. Un jour, Dieu jugera tout ça. Et moi, ça me fait du bien de savoir ça. Parce que ça m'aide à regarder ça et à me dire, bah, peut-être que la justice n'est pas là aujourd'hui, mais un jour, Dieu jugera ceux qui semblent passer au travers des mailles du filet aujourd'hui. Alors, je ne souhaite pas du mal à ces gens. Ce que je souhaite, c'est qu'ils se repentent, parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Mais s'ils refusent de se repentir, alors je sais qu'un jour, Dieu jugera leurs actes aussi, en toute justice. Le prophète Habacuc disait déjà à Dieu, en regardant l'égarement du peuple d'Israël, en regardant les chefs religieux et les chefs politiques d'Israël qui faisaient n'importe quoi vis-à-vis des plus faibles, il dit, mais tes yeux, ils sont trop purs pour voir le mal. Ça ne veut pas dire, tu vois même pas le mal qui se passe et c'est pour ça que tu fais rien. Ça veut dire, tes yeux sont tellement purs que le mal, tu l'as en horreur. Tu refuses, tu n'arrives pas à supporter de regarder le mal. On doit se rappeler de ça. Dieu est le premier à souffrir des injustices qui sont commises ici-bas. Dieu est le premier à souffrir et à ne pas aimer la rébellion des hommes ici-bas. Parce que ce n'était pas ça que Dieu voulait pour l'être humain. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal et un jour, il agira en conséquence. Notre espérance, elle repose dans le fait que Dieu fera justice de toute chose un jour. Jésus disait dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Pourquoi ? Plus fort si vous le savez. Pourquoi ? Parce qu'ils seront rassasiés. Vous avez envie, entre guillemets, c'est une image bien sûr, de manger et de boire la justice. Attendez le retour de Christ et le jugement de toutes choses. Et là, la justice de Dieu sera établie. Et elle sera tellement bien établie que vous n'aurez plus jamais soif de justice et vous n'aurez plus jamais faim de justice. C'est une espérance extraordinaire pour nous de nous dire un jour, on n'aura plus faim et plus soif de justice parce que Dieu nous aura donné tellement à boire et à manger de justice qu'on sera juste bien. Et on n'aura plus jamais faim et plus jamais soif. C'est pas comme quand on mange. On a faim, on a soif, on mange et puis bah, le jour d'après ou le soir, bah, on a de nouveau faim et soif. Ce ne sera pas comme ça avec la justice de Dieu. Un jour, toute justice sera faite. Dieu peut le faire déjà maintenant. Dieu peut déjà nous faire justice dans certaines situations aujourd'hui. Et on doit s'attacher à cette espérance pour nous. Mais il me semble également que nous devons être réalistes. Parfois, Dieu ne fait pas justice sur cette terre de toutes choses. Nous devons quand même rester fidèles et continuer de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Parce que nous savons que toute justice sera faite plus tard et notre vie se porte sur l'espérance de la vie éternelle. On n'est pas juste vivant pour ici, on n'est pas juste chrétien pour ici. Et s'il arrive que Dieu ne réponde peut-être pas à nos demandes de justice maintenant, nous savons que Dieu répondra à toutes nos demandes de justice le jour où il punira les péchés qui auront été commis. Et même si quelqu'un a été injuste envers nous, qu'il vient se convertir et que Dieu lui pardonne, Dieu aura fait œuvre de justice parce qu'il aura pardonné cette personne sur la base de la justice acquise par Jésus-Christ. Du coup, soyez en paix. Dieu ne se montrera jamais injuste. C'est aussi ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il dit, ben, Dieu peut justifier. Dieu peut rester juste en justifiant les hommes parce que même ceux finalement qui sont morts sous la loi mais qui connaissaient Dieu, ben, ils sont aussi justifiés par le sacrifice de Jésus. Du coup, Dieu ne va jamais sauver quelqu'un d'une manière injuste. Si à un moment vous vous dites là c'est injuste, il faut arrêter cette pensée-là parce que Dieu ne fait rien d'injuste. Soyons rassurés par ça. Il n'y a rien d'injuste. Et même si on ne le voit pas aujourd'hui, un jour la justice de Dieu sera manifeste. Alors on doit tenir bon parce que Dieu va peut-être nous faire justice dans notre situation aujourd'hui. Et s'il ne le fait pas aujourd'hui, on sait qu'il le fera plus tard. Donc finalement, la justice de Dieu sera toujours là. Et on aura quand même obtenu gain de cause, entre guillemets, à un moment. Et ça doit nous faire du bien, ça doit nous aider aussi à ne pas rester dans la rancœur, dans l'amertume. Ça doit nous aider. Ça doit nous aider. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans la rancœur et l'amertume, parce que c'est mauvais pour nous. ça nous fait du mal à nous. Cette parabole, elle ne nous dit pas qu'il suffit de persévérer dans toutes nos prières et que Dieu nous donnera forcément gain de cause tout le temps. Cette parabole, ne nous promet pas que Dieu va toujours dire oui à toutes nos prières. Et parfois, nous prenons cette parabole aussi dans ce sens-là, de dire, mais cette parabole nous dit que Dieu va toujours nous répondre favorablement. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais vous dire, heureusement que parfois Dieu ne répond pas favorablement à ce qu'on lui demande. Parce que ça pourrait être terrible si Dieu disait toujours oui à tout, comme l'a fait Bruce dans le film. Quand Dieu nous dit non, il sait pourquoi il dit non. Et quand Dieu nous demande d'attendre, d'être confiant, il sait aussi pourquoi il nous dit d'attendre et d'être confiant. Vous avez sans doute déjà expérimenté le fait que Dieu puisse parfois dire non quand on lui demande quelque chose. Mais pour ce qui concerne la justice, cette parabole nous promet que Dieu dira oui. S'il y a une réelle injustice envers nous, un jour, Dieu punira cette injustice. Quel espoir pour nous. Avant de faire l'institut biblique à nos gens, je travaillais et j'étais le moins payé de toute la société et je trouvais ça injuste. Alors c'était une petite boîte, hein. Mais je trouvais ça injuste parce que j'arrivais le plus tôt et je repartais le plus tard. Et pendant longtemps, je me suis dit, Seigneur, c'est pas juste quand même. Que je sois payé moitié moins que les autres, alors que je fais plus, c'est pas juste. Et je pense que d'un point de vue, je dirais, humain, il y avait une sorte d'injustice. Et un jour, mon patron m'a dit, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu viens toujours plus tôt que tout le monde et pourquoi tu es toujours le seul à rester quand j'ai besoin que quelqu'un reste. Et je lui ai dit, mais je fais ça parce que je veux pas te laisser tout seul et je veux pas te mettre dans des problèmes ou des soucis. Et il dit, mais pourtant c'est toi qui gagnes le moins. Et là je me suis rendu compte que, en fait, cette injustice, elle me permettait d'être un témoignage pour mon patron. Et que c'est, alors il m'a fallu un peu du temps, hein, pour le comprendre, hein. Au départ j'aurais bien sauté sur l'occasion de lui dire, n'hésite pas à m'augmenter, hein, si tu trouves ça injuste. Mais avec le recul, je me rends compte que ce qui me semblait être une injustice et qui d'un point de vue purement factuel en était sans doute une, ça m'a permis d'être un témoignage aussi pour mon patron. Et je pense que parfois d'accepter aussi que Dieu ne nous fait pas justice tout de suite, ça nous permet aussi de montrer un témoignage qui est digne de Christ à ceux qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à Dieu, mets-moi dans des situations de souffrance pour que je puisse prouver ma fidélité ou quoi. Mais parfois, on peut aussi être encouragé de se dire, comment est-ce que je peux être témoin de Christ dans cette situation, même si elle me paraît injuste et qu'elle l'est peut-être effectivement. Mais quelle grâce pour nous de savoir que Dieu ne laissera passer aucune injustice, même la plus petite, que peut-être personne n'aura jamais vue, celle que peut-être personne ne sait. Dieu ne la laissera pas passer. Et ça, c'est extraordinaire pour nous. Et en même temps, ça doit nous encourager aussi, nous, dans notre comportement, à toujours être juste. Parce que si nous aussi, on fait des petites injustices, Dieu, il saura aussi nous le rappeler. Et je ne pense pas qu'on en ait envie. Malgré cela, malgré la certitude que Dieu fera justice de tout, parfois, il y a quand même le découragement qui nous gagne. Moi, parfois, il me gagne. Parfois, il m'a gagné. Parfois, on a l'impression que Dieu, il ne nous entend pas. On a des fois l'impression qu'il n'agit pas. On a l'impression qu'il est comme le juge et qu'il fait la sourde oreille. Qu'on a beau frapper à sa porte, il n'ouvre pas. Parfois, on trouve que Dieu est trop long pour répondre. Et pourtant, le troisième et dernier point de ce message, c'est que Dieu ne tarde pas dans ses réponses. Cette parabole, elle nous montre que Dieu ne tarde pas dans ses réponses quand on crie à lui pour que Dieu nous fasse justice. Contrairement au mauvais juge de la parabole, Dieu ne tarde pas, Dieu ne nous fait pas attendre. Dieu répond toujours au bon moment, au moment qui est opportun, au moment qui est le moment où sa réponse sera la plus appropriée. Que serait-il advenu de nous si Dieu avait répondu favorablement à la demande de Jésus d'éloigner de lui la coupe. Nous serions tous dans nos péchés, nous serions tous perdus et nous ne serions pas ici. Et quand Dieu ne répond pas à nos prières ou pas tout de suite, il sait pourquoi il le fait. Et en même temps, il est bien entendu inconcevable que Dieu ait répondu favorablement à cette demande de Jésus, puisque le désir de Christ était lui aussi de s'offrir à la croix pour nous sauver. Mais c'était juste une petite illustration pour nous faire réfléchir. Dieu répond toujours au moment où sa réponse, elle sera la plus appropriée. Nous, on est appelés à développer une attitude de confiance envers Dieu. On est appelés à reconnaître qu'il sait mieux que nous quand nous répondre et comment nous répondre. Et ça, des fois, on a du mal. On aime bien, en tant que chrétien, proposer des solutions à Dieu. On aime bien lui dire, ben voilà, dans cette situation, moi je pense que peut-être faire ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être tu n'avais pas tout à fait pensé à ça. Du coup, je me permets de te proposer une option. Et puis après, parce qu'on est quand même des bons chrétiens, on dit, mais tu fais comme tu veux. Mais on aime bien proposer à Dieu des solutions. Parce que nous, on a des schémas préétablis dans nos têtes. Un de ces schémas, qui n'est pas forcément faux, hein, c'est aussi un peu pour caricaturer, mais c'est des fois de dire lors d'un enterrement, ah ben ça y est, il va peut-être y avoir un réveil dans la famille. Dieu peut le faire. Dieu peut utiliser un enterrement, un décès pour questionner les gens. Mais la plupart du temps, il me semble tout de même que les gens continuent leur vie comme elle était auparavant. Mais nous, on aime bien proposer des plans. On aime bien donner à Dieu, dire, ben tiens, peut-être que tu n'avais pas pensé à cette opportunité. Saisis-la, au cas où, hein, parce que peut-être qu'elle ne se représentera jamais. Donc, n'hésite pas. Nous, on aime bien dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Parce que je crois aussi que c'est quelque chose pour lequel on a besoin de prier. On a parfois un peu du mal à laisser Dieu être souverain. Et on a besoin de faire quelque chose aussi. On a besoin d'être utile, on a besoin d'être actif. Et des fois, c'est difficile pour nous de dire à Dieu, ben, je te laisse faire. Je place ma confiance en toi, je te laisse faire. Des fois, c'est dur pour nous. Eh bien, sachez, moi, je suis vraiment touché par le fait que Dieu n'est jamais en retard. Je suis alsacien et on a une culture relativement germanophone quand même en Alsace. Et une des choses avec lesquelles mes parents m'ont élevé, c'est qu'on n'arrive pas en retard. Si tu arrives en retard, tu es irrespectueux. Et du coup, pour être sûr qu'on n'est pas en retard, on arrive à l'avance, et bien à l'avance. Même si ça veut dire qu'il faut poireauter, ce n'est pas grave. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis touché par le fait que Dieu, il n'est pas en retard. Ça parle à quelque chose que mes parents ont mis en moi quand j'étais enfant. Et pourtant, des fois, on a vraiment l'impression que Dieu, il n'est pas pressé. Des fois, on se dit... Ça va, je suis jamais en retard, n'oublie pas. Pensez à ce récit de la résurrection de Lazare dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Jésus apprend que Lazare, celui qu'il aime, donc on voit que Jésus n'en a pas rien à faire de ce qui se passe pour Lazare ou de lui-même. Il est malade. On apprend à Jésus qu'il est malade. Pourtant, Jésus, il va décider de rester encore 2 jours là où il se trouve. T'as un ami malade, quelqu'un que tu aimes, tu dois tout faire à pied parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. Du coup, il vaudrait mieux faire les bagages et partir. Et toi, tu restes 2 jours là, comme ça. Ok. Et lorsqu'il arrive enfin en Judée, eh ben Lazare, il est au tombeau depuis 4 jours. Et nous, notre réaction d'être humain, c'est de dire, ah bah bravo Jésus, bien joué. Et nous, des fois, on est un peu en colère après Dieu. Hein. Ou des fois, on lui dit, tu vois pas que t'as raté le coche ? T'aurais pas pu te dépêcher. Tu vois pas que c'est fichu maintenant. Même si on n'aime pas des fois reconnaître hein, qu'on pense ça dans notre cœur. Et je suis pas fier hein, quand j'ai parfois ce genre de réaction. Mais ouais, ça fait 4 jours que Lazare est au tombeau. Et qui d'entre nous alors dirait « Jésus est arrivé à l'heure ?» Personne dirait ça. Personne dirait ça. Tout le monde dirait, ben Jésus, il aurait mieux fait de ne pas rester 2 jours là-bas, il aurait mieux fait de venir tout de suite, de peut-être trouver un âne ou un cheval pour aller plus vite. Jésus est resté 2 jours là-bas, il n'était pas pressé. Et si vous relisez le texte avant même que Jésus soit auprès de Lazare et de sa famille, Jésus va dire, ah, cette situation, elle va servir la gloire de Dieu. Donc il prend son temps parce qu'il sait ce qu'il va faire. On pourrait peut-être dire, ouais, Jésus, il a été un peu trop confiant hein, sur ce coup. Mais Jésus, devant le tombeau, il va dire d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Pour un gars en retard, c'est pas mal. Non? Notre Seigneur Jésus n'est jamais en retard. Jamais, jamais, jamais. Même quand les situations semblent nous dire le contraire. Nous, nous voyons avec nos yeux d'être humains. Dieu voit du haut du trône des cieux. Rappelez-vous lorsque parfois, rappelons-nous même, je m'inclus parce que j'en ai besoin, parfois lorsque nous avons des craintes, des doutes, que tous nos jours ont été écrits par Dieu dans son livre avant même que nous existions. Ce qui pour nous est une découverte n'en est pas une pour Dieu. Jésus a dit Lazare, sors, et Lazare est sorti. 4 jours au tombeau, ce n'est pas un problème pour Jésus. Et ce que Jésus a dit quand il n'était pas encore en Judée, c'est devenu vrai. Ça, ça va être utile pour la gloire de Dieu. Il ressuscite un mort qui est mort depuis 4 jours. Ça sert la gloire de Dieu. Jésus savait. Et du coup, Jésus n'était pas en retard parce que c'était comme ça qu'il devait faire. Eh bien, pour nous non plus, Jésus n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard lorsque nous demandons de lui faire, de nous faire justice. Jésus n'est jamais en retard. Quel plaisir d'avoir un Dieu qui n'est jamais en retard. Et ça veut dire aussi que lorsque Jésus reviendra, il reviendra vraiment au bon moment. Même si parfois il nous tarde que Jésus revienne et qu'on se dit, mais tu ne pourrais pas revenir maintenant? Ou alors des fois on dit, si tu peux revenir peut-être plus tard, parce que je viens de me marier, je viens d'avoir des enfants, je suis enfin à la retraite. Donc des fois on aimerait qu'il vienne plus vite, des fois on aimerait qu'il vienne moins vite. On n'est pas toujours très conséquent, hein. Mais Dieu viendra au bon moment, Jésus reviendra au bon moment. Et Jésus va poser une question rhétorique, une question qui ne demande pas de réponse spécialement. À la fin de sa parabole, il va dire, pouvez-vous supposer que Dieu tardera à venir en aide à ceux qu'il a choisis? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu va tarder? Personne ne répond à cette question, parce que tout le monde sait la réponse. Bien entendu, il ne va pas tarder. Et il dit, Jésus, il ajoute que Dieu va défendre leurs droits promptement. Rapidement, vite, même quand ça paraît long. Même quand ça paraît long. Dieu n'exauce jamais trop tard. Et Dieu n'exauce jamais de la mauvaise manière. Dans la relation de prière que nous entretenons avec Dieu, s'il y a une partie qui est défaillante, ce n'est pas celle de Dieu. C'est nous qui parfois sommes défaillants. Dieu n'est pas défaillant. Dieu n'est pas en retard, Dieu ne rate jamais une occasion de nous répondre. Mais peut-être que parfois nous ratons des occasions de demander, ou de bien demander. Le désir de Dieu, c'est que la justice règne, et quand nous serons auprès de Dieu, la justice règnera. Et si vous avez besoin de la justice dans votre vie aujourd'hui, Dieu répondra promptement à votre demande. Le promptement, c'est peut-être au jugement, mais c'est peut-être aussi encore dans cette vie-là. C'est pas nous qui décidons du promptement de Dieu. Rappelons-nous humblement, comme le disent les psaumes, que eh bien pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc, à hauteur de notre calendrier, ça ne fait que 2 jours pour Dieu. Bien entendu, c'est une manière poétique et imagée de parler du rapport de Dieu au temps. Mais Dieu agit toujours promptement, même quand ça nous paraît très long. Et puis des fois, Dieu a agi avant même qu'on ait demandé. Nous, on demande et finalement, on sait que, ah ben tiens, à tel moment, tel jour, il y a eu telle chose et Dieu a répondu favorablement. Et nous, on se dit, ah ben moi, j'ai demandé après. Du coup, en fait, Dieu avait déjà demandé à ce que j'ai, avait déjà répondu à ce que j'ai demandé. Dieu répond toujours au bon moment. Ça fait vraiment du bien de savoir ça. Moi, ça me fait du bien et j'espère que ça vous en fait aussi. On est appelé à placer notre confiance dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu est vraie. Elle nous montre que Dieu fait justice à ceux qui lui demandent. Et elle prouve que Dieu n'est jamais en retard et elle nous apprend à persévérer. Et ça doit être suffisant pour tenir bon. ça doit être suffisant pour tenir bon et pour persévérer. La parole de Dieu, elle est entièrement suffisante. Même si les événements semblent souffler des vents contraires sur nous, la parole de Dieu, elle ne chavire jamais. Dans la barque, Jésus dort paisiblement, la tête sur un coussin. Et ses disciples, ils sont là, on va tous mourir. Jésus, lui, dort. Parce que quand Jésus est là, même la plus grande des tempêtes ne nous fera pas chavirer. Elle ne nous fera pas mourir. Moi, j'aime beaucoup le théâtre et je suis un peu théâtral dans certaines choses. Vous l'avez peut-être un petit peu vu. Ma femme, elle pourrait témoigner que des fois, c'est assez théâtral à la maison quand je lui raconte des choses et tout ça. Mais j'imagine bien un bateau comme ça avec tous les disciples qui paniquent et Jésus juste qui dort. Et tous les disciples qui sont là, il faut quand même le réveiller. Mais non, il ne faut pas le réveiller, il dort. Mais si, il faut le réveiller, on va tous mourir. Et de Jésus qui se réveille, et pourquoi vous vous en faites? Laissez-moi dormir. Si je ne me réveille pas, c'est que tout va bien. Mais on est parfois comme ça, on agite Dieu pour lui dire, réveille-toi, fais un truc. On ne sait pas quoi, hein, mais fais quelque chose. Et Dieu nous dit, mais si je ne fais rien, c'est que ce n'est pas le moment. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. La parole de Dieu, elle reste éternellement vraie. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et demain. Pour toujours, il sera le même. Il est le même. Il est moi, je suis. Il est celui qui est aujourd'hui. Il ne ment pas et il accomplit sa parole de façon sûre et certaine. Jésus lui-même s'engage à ça. Jésus lui-même s'engage à ça. Il dit, après avoir posé ses questions, il dit, moi, Jésus, je vous dis qu'il défendra le droit de ses élus promptement. Si Jésus le dit, si Jésus engage sa parole, c'est parce qu'il sait que c'est la vérité. Il sait que si on demande justice à Dieu, Dieu fera justice. Si Jésus n'était pas sûr de son Père, il ne le dirait pas. Hein. Mais il dit, moi je vous le dis. Il fait une promesse, Jésus. Dieu défendra votre droit. Moi, Jésus, je m'engage à vous affirmer que Dieu, mon Père, défendra le droit de ceux qu'il a choisis. Moi, votre Sauveur, je vous fais cette promesse. Soyons en paix parce que Jésus nous a affirmé que Dieu agirait pour nous et qu'il défendrait notre droit. Notre parabole se finit avec une dernière question de Jésus et il ne faut pas l'oublier cette question. Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ? Ha ! Waouh, ok, c'est dommage Jésus parce que tu casses un peu toute ta parabole encourageante avec ta question. On pourrait se dire, mais pourquoi il vient nous embêter avec cette question? C'était tellement bien ce qu'il a dit. Jésus, il veut nous apostropher, il veut nous questionner ici. Il veut nous faire réfléchir pour qu'on se mette en action. Cette question, elle ne vient pas casser le reste de la parabole. Cette question, elle vient nous dire quelque chose d'extrêmement important. Jésus, il n'est pas en train de dire que quand il viendra, il va trouver des chrétiens qui ont perdu la foi. C'est pas ça que Jésus dit. Certainement pas. Certainement pas. Jésus imagine même pas ça. Mais Jésus, il nous apostrophe de la sorte, c'est pour nous faire une piqûre de rappel. Il veut qu'on développe une vie de foi, une foi persévérante, une foi qui est attachée à Dieu, à sa parole et à ses promesses. Ce que Jésus veut, c'est que quand il pose cette question, on s'écrie « Oui, tu trouveras la foi. Si je suis encore là quand tu reviens, tu me trouveras et j'aurai la même foi que cette femme, une foi qui persévère jusqu'au bout. » C'est ça que Jésus veut. Jésus, il n'est pas en train de tout casser ce qu'il vient de dire. Ce que Jésus nous dit, c'est « Moi, mon espoir, mon désir pour vous, c'est que quand je reviens, si vous êtes là, vous ayez la même foi que cette femme, une foi persévérante vis-à-vis de Dieu. » Il veut qu'on soit comme cette veuve. Il veut qu'on ait une foi comme la sienne. Parce que c'est bien sa foi qui l'a poussée à continuer de demander justice. Parce qu'elle savait que Dieu ferait justice. Cette parabole, elle nous encourage quant à notre vie de prière et à notre foi d'une manière générale. Que Dieu nous trouve persévérants et pleins de foi lorsque nous serons rassemblés avec lui. J'aimerais vous laisser quelques sujets de prière. Parce que juste entendre une prédication et se dire c'était bien, bon, pourquoi pas? Mais le but de la prédication, c'est que ça nous transforme. Le but de la parole de Dieu, c'est que ça nous touche et que ça nous touche d'une manière durable. Et c'est trop facile si vous sortez de là sans rien avoir à faire. Si vous parliez avec les gens de mon église, je leur donne tout le temps des défis. Je leur donne toujours des choses à faire. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le font. Je ne cherche pas à le savoir. Mais je pense que la prédication, elle doit nous mettre en œuvre. Elle doit nous mettre en marche. On doit répondre quelque chose à la prédication. Et j'aimerais du coup vous laisser ces sujets de prière pour vous. Et pour moi aussi. Que nous puissions dans notre prière avoir de la reconnaissance pour la justice et la fidélité de Dieu. Et pour son amour. Que nous puissions aussi avoir de la reconnaissance pour la certitude que Dieu fait justice à ceux qui lui demandent. Et peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui, vous avez besoin que Dieu vous fasse justice. Vous, vous savez. Dieu sait. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Mais vous pouvez dire à Dieu, même si je n'ai pas encore vu ta main me faire justice, je te dis merci parce que je sais que tu fais justice, maintenant ou plus tard. Mais je le sais parce que ta parole le dit. Et deux requêtes qu'on peut adresser à Dieu. Demandons à Dieu de nous rendre toujours plus persévérants dans la foi et dans la prière. Soyons toujours plus persévérants dans la recherche de la justice de Dieu. Et demandons à Dieu qu'il nous aide aussi à fournir les efforts qu'on doit fournir pour rester persévérants. Et la deuxième requête, demandons vraiment à Dieu de nous soutenir dans notre foi pour que si nous sommes sur cette terre lorsque Christ reviendra, Christ puisse dire « Oui, j'ai trouvé encore la foi quand je suis revenu. » C'est le désir de Dieu pour nous. Alors demandons-lui. Parce que lorsque nous demandons quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu, Dieu le fait. Nous en sommes assurés, la parole de Dieu nous l'enseigne. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse, vous aussi. Merci.